On va y aller tranquillement. Alors, vous savez, le thème, le sujet, ou les, on va dire le grand thème qu'on aborde cet été, le repos. Alors, pour ceux qui me connaissent, le repos n'est pas ma force. Moi, j'aime courir, j'aime défoncer les murs, j'aime encore courir, j'aime parler. Donc, le repos, en général, c'est compliqué. Mais justement, je trouve que ce qui est merveilleux avec Dieu, c'est que de mes faiblesses, il en fait des forces. Alors, il y a quelques années en arrière, je me suis attelée à comprendre comment Dieu, avec ce que je suis, allait pouvoir transformer mes faiblesses en forces. Alors, je vais revenir quand même un petit peu et rappeler ce que la Bible nous dit par rapport au repos, parce que moi, même si ce n'est pas ma force, je sais que la parole de Dieu est la vérité et qu'au fur et à mesure que je l'applique et qu'elle s'imprègne en moi, j'ai une puissance, une force, une autorité qu'il me donne. Et j'aimerais rappeler, donc, bon, alors il y a eu plusieurs regards, plusieurs approches du repos. Et moi, en tout cas, il y a quelque chose qui me perturbe beaucoup dans le repos, c'est de couper dans une continuité. Oh. Moi, longtemps dans ma tête, ça a fait un bug. C'était, mais comment couper dans une action et un mouvement sans cesse? Vous savez, je ne sais pas si vous... Imaginez-vous là maintenant une cascade puissante qui tombe. D'un coup, elle ne s'arrête pas, puis elle recontinue. Enfin, je ne sais pas si vous vous imaginez ce que veut dire le repos. Alors moi, au début, c'était ça le repos. Je dis, waouh, me connaissant, ça ne va jamais marcher. C'est sûr que ça ne marchera jamais. Et à ce moment-là, le Seigneur m'a rappelé Lévitique. Alors Lévitique, ce n'est pas un livre que je lis très souvent, hein, je vous rassure, ce n'est pas un de mes préférés des livres, mais c'est un livre qui est très important par rapport aux bénédictions et malédictions, par exemple, par rapport à aux lois, par rapport à des tas de choses qui sont des fondements de ce que je vais ou je peux devenir. Et dans Lévitique 26, qui est le chapitre qui est intitulé « Bénédiction et malédiction ». En général, on n'a pas trop envie de se lire ce genre de chapitre parce qu'on sait qu'à la clé, on va se prendre des vérités, mais elles sont bonnes ces vérités. Et moi, je m'en rappelais une concernant le repos. Dans Lévitique 26:2, il est écrit « Vous observerez les jours de repos que je vous ai prescrits et vous révérerez mon sanctuaire, je suis l'Éternel. » Alors, vous observerez les jours de repos. Vous révérerez. Je ne sais pas si quelqu'un connaît le verbe révérer. Craindre. Pouf. Rendre un profond respect. Pouf. Et là, on se dit, waouh. Ça veut dire que le repos va me pousser à craindre Dieu et lui rendre un profond respect. Mince, ça n'a plus rien à voir avec... arrêter la puissance, machin, un mouvement, c'est quelque chose de totalement différent. Et la suite de ce chapitre, moi, je lis régulièrement que pour ça, hein, je suis très... Mais c'est tellement bon de voir que, en respectant ça, les jours de repos, Dieu nous donne les promesses des bénédictions qui suivent derrière, que la pluie tombera, que les récoltes ne manqueront jamais. Je ne sais pas si vous captez la profondeur et l'ampleur d'un acte d'obéissance à Dieu par rapport au repos. Alors oui, alors on peut dire du repos, on peut dire oui, je vais faire ça, je vais... Mais je crois qu'on peut aller beaucoup plus loin, parce que moi qui suis quelqu'un qui aime profondément vivre les choses, mais à 100%, bon là vous l'avez compris, hein, je me disais, oui, mais alors quel chemin prendre? Comment vraiment vivre pleinement comme je suis le repos de Dieu? Alors je vais vous témoigner un moment de ma vie qui se produit très régulièrement, mais qui vaut la peine d'être nommé, parce que je ne pense pas être la seule à vivre ces défis personnels. Alors moi, je suis responsable dans une entreprise, hein. Bon, voilà. Mais une chose qui est certaine, c'est que chaque jour, ce que je vis dépend de ce que je suis. Et il y a 3 mois de ça, oh là là, j'étais fatiguée. Fatiguée, j'avais l'impression de passer ma journée à gérer des urgences. Alors en général, quand je commence à vivre ça, c'est que les choses ne vont pas du tout bien. Enfin, je ne sais pas si ça vous arrive à vous. Vous avez l'impression qu'il y a urgence après urgence qui se présente à vous sans jamais s'arrêter. En plus du travail que vous avez à faire tous les jours, on est d'accord, hein, sinon ça ne serait pas drôle du tout. Et là, au-dedans de moi, fatiguée, lassée. Et il y en a certains qui me connaissent très bien, quand je commence à dire que je suis fatiguée, c'est que ça ne va pas. Parce que je ne suis jamais fatiguée. C'est rare que je sois fatiguée. Et là, je me dis, oulala, je suis fatiguée. Et là, mon cher et tendre mari me regarde avec des gros yeux. En général, il me dit, ouh, tu veux quoi? Tu veux du repos? Tu veux quelque chose? Et je dis rien. Je dis, mais je suis fatiguée. Et au bout d'une semaine, au bout de deux semaines, je me dis, mais il y a quelque chose qui ne va pas en moi, qui fait que je sente et que je perçoive une fatigue ainsi. Et pourtant, hein, je prie, je parle, je médite, et je parle et je médite, je demande à Dieu, écoute Seigneur, tu sais quand même, tu me vois, machin, etc. Je fais des allers-retours, vous savez, comme ça dans le ciel, comme des fois on fait par habitude, par désir, puis en me disant, mais il faut que je me remette en question, enfin, puis silence, rien. Puis un matin, fatiguée, moi je suis une lève-tôt, et là j'arrivais plus à me lever tôt. Alors là c'est un signe, je me dis, waouh, je me fais peur à moi-même en général, hein, ces moments-là, et je me dis, bah, écoute, tu vois Jasmine, demain tu te lèveras encore plus tôt, et tu prendras plus de temps pour prier. Alors là je me lève, moi je ne suis pas du tout un radar le matin, je mets mon pied par terre et pouh, c'est parti. Mais ce matin-là, je traîne la patte. Vous voyez ce que je veux dire? Je traîne la patte. Puis je m'assois, puis je mets un moment de la louange, puis silence. Puis silence. Puis encore silence, et j'écoute. Je me mets à écouter ce que Dieu me dit, à écouter ce que moi je perçois de la situation, puis hop, à écouter à nouveau Dieu. Puis passe un long moment comme ça où je suis dans le silence. Et d'un coup, au-dedans de moi, je sens mon esprit qui se fortifie. Et je suis surprise. Je suis surprise de quoi? Mon âme avait besoin d'un cœur à cœur avec Dieu, d'une intimité particulière avec mon papa, d'une présence, de la douceur de l'Esprit Saint, comme un vent frais qui venait me faire du bien. Et là, waouh! Je me dis, waouh, Jasmine, là, cette journée, ça va être du tonnerre. J'arrive au travail. Et comme d'habitude, mes horaires exactement les mêmes. J'enchaîne exactement les mêmes situations. Mais les situations sont des apparences, en apparence, parce que moi, au-dedans de moi, il y avait quelque chose qui avait changé. Je ne gérais plus des urgences, mais des situations. Un jour, deux jours passent, trois jours passent. Je me dis, tiens, c'est bizarre, j'ai plus d'urgence en ce moment. Mais c'était exactement les mêmes choses que je vivais. Les mêmes réclamations de mes salariés, de mes fournisseurs, de mes clients, c'était exactement les mêmes choses. Alors je me pose, je réfléchis un moment, je dis, écoute, je crois vraiment, Seigneur, que c'était, je me sentais épuisée par manque d'intimité avec toi. Je me percevais comme étant dans une situation alors que je pouvais choisir de ne pas y être. Et effectivement, les situations ont été les mêmes, mais je n'étais plus épuisée, je n'étais plus fatiguée. Et il y a un verset qui est incroyable et qui nous donne des clés pour accéder au repos. C'est dans Matthieu 11, 25 à 30. Ces versets ont déjà été cité plusieurs fois, mais avec des regards différents. Et aujourd'hui, j'aimerais vous apporter le mien et ma manière de les vivre, ces versets dits de cette façon-là, de la bouche de Jésus lui-même. C'est-à-dire qu'il y a une clé à trouver et à appliquer dans nos vies. Et ce témoignage que je vous ai dit, en fin de compte, vous allez comprendre que je n'ai juste fait qu'appliquer trois verbes d'action qui sont tellement bien notés, mais que des fois, on ne fait que entendre, mais qu'on oublie de vivre. Alors, lisons ensemble Matthieu 11, versets 25 à 30. Je reprends exprès des versets avant qu'il parle du repos. Je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et que tu les as révélées à ceux qui sont tout petits. Oui, Père, car dans ta bonté, tu l'as voulu ainsi. Mon Père a remis toutes choses entre mes mains, et c'est Jésus qui parle. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Notez bien ça. À celui à qui le Fils veut le révéler. Ensuite, il dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. Oui, mon joug est facile à porter, et la charge que je vous impose est légère. » Ce texte est rempli de contradictions, parce que c'est notre entendement qui n'entend pas certaines choses, mais c'est tout simplement Dieu qui nous parle et qui nous donne des clés de victoire pour vivre ce fameux repos dont on parle. Alors, je ne sais pas si vous avez noté les verbes dont je vous ai parlé tout à l'heure d'action qui concernent « Puis je vous donnerai et je vous donnerai du repos. » « Et je vous donnerai du repos et vous trouverez le repos. » Avant, il y a trois verbes. Le premier, c'est « Venez. Oh. » Ça, c'est le truc qui est facile à entendre, mais je ne sais pas si vous connaissez le verbe « venir ».« Venir. » Est-ce que ça suppose « Je reste sur ma chaise et je ne bouge pas ?»« Venir », ça m'oblige à passer par un acte de volonté qui bascule en moi une action. « Venir », c'est volontaire. Je choisis. Ouh, là, on est en train de voir qu'il y a des actes à poser avant de rentrer dans le repos, alors que nous, on voudrait vivre un repos de façon idéale. Je pars en vacances, c'est idéal, tout est merveilleux et je vis le repos. C'est du mensonge, soyons honnêtes. C'est sûr que ça peut aider si on se donne cette volonté d'aller plus loin. Mais en apparence, si on ne fait que des vacances, même en mettant les pieds sous la table, moi j'ai déjà expérimenté en disant « Ouais, le vrai repos, j'ai besoin d'une semaine sans faire à manger. » Enfin, je ne sais pas vous mesdames, mais bon, moi j'ai eu mes crises. Hein, et ça en fait partie. Eh bien vous savez quoi, je suis rentrée à la maison une semaine après, frustrée comme jamais. Parce que ce n'était pas ça le repos. Le vrai repos, ce n'est pas celui de rien faire. Le vrai repos commence par « Venez. » « Venez » va supposer un acte. Ensuite, il y a un deuxième verbe. Prenez. Oh, et là, ça, c'est prenez, prendre. On se dit, quoi, prendre le joug? C'est quoi le joug? C'est quoi ce fameux joug dont Jésus me parle? C'est-à-dire que je viens. Donc déjà, je choisis de faire une action. Ensuite, je prends. Waouh, deuxième action. Et tout ça pour avoir du repos. Mais ça veut dire quoi? Prenez mon joug. Il y a une très belle image. Ce matin, on discutait, on partageait avec mon mari. Et il me dit, mais tu sais quoi, ma chérie? C'est juste décider que j'amène mon regard de mes circonstances à Dieu. Et à la place, je prends juste son regard. Tout simple. Oh, je dis, oui, c'est vrai, effectivement. Je vais le partager ainsi. En gros, c'est tellement simple qu'on s'en prive. Hein, soyons honnêtes. Moi, la première, je m'en prive. C'est quoi? Je prends mon joug, mais je lui laisse d'abord le mien. Ça veut dire, parce que vous tous qui êtes fatigués et chargés, c'est quoi? Je dépose, alors oui, au pied de la croix de Christ qui s'est sacrifié pour moi, mais je dépose aussi mes pensées qui vont avec, mes habitudes qui vont avec, ma raison qui va avec. Ça va bien au-delà que juste mon joug. Une situation. Ah, la situation est difficile. Oh, je te la laisse. Oh, ça ne s'arrête pas là. Et je prends le regard de Christ, de Dieu le Père, sur ces situations dans ma vie. Petit exercice tout simple. Pensez là maintenant à une situation dans votre vie qui est difficile. C'est un joug. Joug, le joug. Ça peut être un péché, ça peut être une situation de travail compliquée, ça peut être une pression familiale, ça peut être tas et un tas de choses, des pensées négatives, ça peut être... Pensez à ça. Oh, en général, je ne sais pas vous, mais moi, ça m'écrase. Ça me dit, ouf, j'y arriverai pas. Enfin, moi, je ne sais pas vous, mais moi, quand je pense à ça comme ça, je me dis, j'y arriverai pas. Et là, vous vous dites, comment Dieu voit cette situation? Comment Dieu voit cette situation? Et en général, la parole de Dieu disant la vérité, lui qui a tout porté, qui transforme les circonstances de nos vies, ça veut dire que rien n'est impossible à celui qui croit. Ça veut dire que d'avance, le regard de Dieu sur ma situation difficile, elle n'est plus, elle n'existe plus. Parce que par la foi, je vais activer le regard de Dieu et la situation va se transformer. Waouh, c'est puissant! C'est puissant la façon dont on peut voir avec le regard de Dieu et plus avec notre regard. Amen! Waouh! Il y a quelque chose d'incroyable qui se produit dans le ciel lorsque je prends le joug de Christ et non plus le mien. Un troisième verbe. Celui-là, il est un peu plus compliqué à trouver parce que suivant les versions, il change. Moi, j'ai choisi le verbe. Là, c'est marqué « Prenez sur vous et mettez-vous à mon école ». Moi, j'ai mis « Apprendre » parce que il y a quelque chose d'incroyable lorsqu'on ne reste pas statique dans la vie, qu'on ne reste pas identique à soi-même année après année. Il y a quelque temps de ça, je discutais avec des amis très chers à mon cœur et je me disais, mais je suis tellement reconnaissante comme Dieu m'apprend chaque situation, chaque difficulté, mais des choses incroyables. Il ne m'apprend pas seulement à traverser les épreuves, parce que ça, on pourrait se dire, ouais, Dieu de grâce, d'amour, c'est obligé. Non, non, non. Bien sûr qu'il le fait, parce que Dieu est un Dieu d'amour et de grâce, mais ça va plus loin. C'est que ma vie est transformée, mon regard sur les circonstances et les gens est transformé. Vous ne trouvez pas que ça, c'est bien plus merveilleux d'apprendre? D'apprendre avec humilité, copier le maître, copier ce que Jésus est, copier la façon dont il voit les choses, la façon dont il a envie que je vois les choses. Quand c'est marqué « Mettez-vous à mon école », ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en mouvement et qu'elle ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas d'apprendre. On ne peut pas s'arrêter du jour au lendemain quand on a fini l'école. J'ai fini d'apprendre. Ça serait oublier que Dieu a un projet bien plus grand que 20 années d'école, en résumant. Parce que si on devait vivre que 20 ans, bon, moi j'ai largement dépassé le cap, hein, on est d'accord, donc je suis grillée. Mais non! Si on a cette attitude de continuer d'être enseignable, d'être souple, d'apprendre et de ne pas rester figé dans ce que nous sommes, de ne pas rester borné, il y a une victoire derrière qui est incroyable. Et je vous donnerai, et vous trouverez. Jésus nous donne le repos lorsque nous passons dans une action personnelle de nos vies. Je ne sais pas si vous captez comme il y a quelque chose de puissant à trouver le repos. Moi, je connais des gens, alors moi, je vous ai dit que j'étais responsable. Alors oui, c'est vrai, j'ai des horaires compliqués, machin, tout ce que vous voulez. Mais moi, je connais des gens qui n'ont pas ces responsabilités, mais qui sont aussi fatigués. Parce que la fatigue ne vient pas de la charge que tu as, ni de ce que tu fais. Elle dépend de la santé de ton âme et comment tu vis les choses, comment tu les abordes, comment tu les perçois. Il y a des gens, moi j'ai un exemple, hein. Rodrigue, il n'est jamais fatigué. Des fois, je lui dis, mais comment tu n'es jamais fatigué? Hop, je reprends mes mots parce que je sais pourquoi il n'est jamais fatigué. Il va puiser sans cesse. Alors oui, c'est vrai, vous allez me dire, il est pasteur, il a consacré sa vie à ça. Mais il n'est pas obligé de le faire entre nous, entre toi et moi. Il n'est pas obligé. Moi, je connais des pasteurs qui sont épuisés, fatigués. Et pourtant, ils passent du temps avec Dieu. Et pourtant, ils consacrent leur vie à Dieu. C'est une attitude au-dedans de nous. C'est quelque chose qui vient nous chercher dans nos tripes que de vivre et de voir avec le regard de Dieu et rentrer à ce moment-là dans le repos de notre âme. La clé pour moi, et c'est ce que je vous dis, c'est le secret, c'est un de mes secrets entre Dieu et moi, c'est l'intimité. Alors ceux qui sont en couple vont le comprendre facilement. Ceux qui ne le sont pas, je suis certaine que vous pouvez le vivre de manière de la même façon, cette intimité avec Dieu. L'intimité, c'est quelque chose que personne d'autre ne peut connaître au-dedans de moi, de ce que je cherche, de ce que je perçois. Il y a quelque chose dans l'intimité qui est... c'est mon jardin secret, si on peut le résumer, c'est mon jardin secret le plus au-dedans de moi. Mais l'intimité avec Dieu est une clé qui est incroyable pour goûter, et j'ai bien dit goûter, au repos de Dieu, au repos dont Dieu nous parle, ou dont Jésus nous parle dans Matthieu 11. Mais cette intimité, on n'y rentre pas comme ça, avec des grosses bottes et en fonçant dans les murs. Parce que je ne sais pas pour vous, mais il y a quelque chose, là on va parler de l'apprentissage, de connaître le maître, d'aller chercher encore et de ne jamais se fatiguer ni de se lasser d'aller chercher l'intimité. L'intimité, ça veut dire un cœur à cœur, un corps à corps. Je me permets de le dire parce qu'il y a quelque chose d'intime qui rentre là. De le vouloir avec la moindre parcelle de ce que je suis. L'intimité avec Dieu est pour moi une clé pour entrer et pour goûter au repos de mon âme.